les podcasts
de Blast.
Imaginez un pays où les femmes n'ont pas le droit de chanter, de danser, de faire du vélo, de la moto ou encore d'aller assister à un match de football. Un pays où la police des mœurs sévit au moindre écart, à des règles arbitraires et injustes, où les hommes et les femmes sont soumis à un régime dictatorial. Un pays où, malgré toutes ces interdictions, une partie de la population désobéit, chante, danse, manifeste, revendique le droit à la joie, à l'amour, à la poésie, au péril de sa liberté de circulation, de son intégrité physique ou même de sa vie. Ce pays, c'est l'Iran. Et l'histoire que nous allons vous raconter n'est pas celle d'une dictature, mais d'une révolution. Si des actes de résistance et différents mouvements ont secoué le pays depuis plusieurs décennies, aucun n'a eu l'ampleur de celui initié au mois de septembre 2022. Le 16 septembre 2022, une jeune iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, est assassinée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Après des décennies d'oppression et d'atteinte aux droits humains les plus fondamentaux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
À l'époque, l'événement provoque une déflagration. Les manifestations se multiplient. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, les femmes se découvrent. Elles coupent leurs cheveux, vont jusqu'à brûler ce voile qui les opprime.
Ce drame va déclencher une colère irrépressible et une révolte sans précédent dans tout le pays. Des dizaines de manifestations éclatent, des femmes arrachent leur voile et le brûlent, les hommes et les femmes se mobilisent autour de ce slogan clair, limpide, « Femme, vie, liberté ». Ces images ont fait le tour du monde, tout comme celle de la répression, aussi sanglante que le mouvement est puissant, puisque des centaines de personnes ont été tuées par la police.
En quelques jours, le soulèvement gagne plusieurs villes d'Iran. Et la répression ne tarde pas, elle est féroce. Plusieurs dizaines de personnes sont abattues dès le premier jour. Au total, plus de 500 personnes perdront la vie au cours de ces 6 mois de soulèvement et plusieurs dizaines de milliers seront arrêtées.
Comme le souligne Amnesty International, au début du soulèvement et dans les mois qui ont suivi, les autorités ont arrêté arbitrairement des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Des actes de torture, de viol et des mauvais traitements ont été infligés à des milliers de prisonniers détenus, dont des mineurs. Si de l'extérieur, le mouvement peut aujourd'hui sembler éteint, les braises de la révolte sont encore allumées. Un vent de liberté a soufflé sur tout le pays, les mentalités semblent avoir durablement changé au prix de destins douloureux, notamment de femmes qui, malgré la violence de la répression, continuent à résister à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays. En ce début d'année, un livre vient rassembler les témoignages bouleversants de 16 résistantes iraniennes. Aujourd'hui, l'une d'elles a accepté de venir sur le plateau de Blast. Elle est une actrice au talent hors norme et incarne aujourd'hui l'une des voix iraniennes les plus vibrantes et écoutées dans son propre pays et à travers le monde. Depuis 2022, plus que jamais, elle porte la cause des Iraniens et des Iraniennes révoltées. Pourtant, derrière ce combat, il y a son histoire personnelle, à l'image de son pays, douloureuse, puissante et inspirante. Dans cette émission un peu spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir Golshifteh Farahani sur le plateau de Blast. Golshifteh Farahani, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes actrice, chanteuse, vous êtes née à Téhéran, en Iran, et vous avez commencé très tôt dans le cinéma, dans lequel vous avez excellé dès l'âge de 14 ans. Le public étranger vous a découvert avec les deux films Deux Anges puis Boutique, mais c'est en 2008 que votre carrière a pris un tout autre tournant avec le film Mensonge d'État de Ridley Scott, où vous jouez aux côtés de Leonardo DiCaprio. Depuis, vous enchaînez les succès au cinéma avec une grande filmographie qu'on ne va pas détailler ici, mais on peut y retrouver entre autres My Sweet Pepperland, Patterson, mais aussi Pirates des Caraïbes 5 ou encore Les Filles du Soleil. En France, on a aussi pu vous voir dans le clip du chanteur Aurel San qui s'appelle Paradis. Vous êtes une artiste engagée par vos choix de films, mais aussi par vos prises de position et c'est tout l'objet de cette interview aujourd'hui. Parce que là, j'ai parlé de votre filmographie, de votre grande carrière à l'international, mais cette carrière, elle a eu un coup personnel personnel très important. Vous avez commencé votre carrière en Iran avec plus de 10 films dans votre pays, mais c'est bien le film Mensonge d'État que j'ai évoqué tout à l'heure qui a été ce tournant, puisque quand vous rentrez de tournage, votre passeport vous est confisqué, vous êtes accusé d'espionnage, interrogé pendant 7 mois, vous finissez par réussir à vous enfuir et à venir vivre ici à Paris en exil et vous n'êtes jamais retourné dans votre pays d'origine. Aujourd'hui, vous avez participé à l'écriture de ce livre en livrant votre témoignage. Ce livre qui s'appelle « Nous n'avons pas peur, le courage des femmes iraniennes » qui a été écrit par Nathalie Amiri et Duzen Tekal, qui rassemble beaucoup de témoignages de femmes iraniennes et qui reviennent sur les événements, notamment récents, avec la révolution. Je pense qu'on peut dire ça, qui a été débutée en Iran. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant qu'actrice, de prendre la parole à ce sujet en France en 2024 ?
Moi, j'ai toujours essayé comme artiste de pas justement parler, parce que je pense que c'est les politiciens qui parlent. Les artistes doivent parler avec les choix justement et le travail qu'ils font. On n'est pas les politiciens pour venir et donner les paroles et parler, mais quand, justement, Mahsa a été assassinée, tuée, il y avait quelque chose en nous tous qui a été vraiment bouleversé. Et je dis toujours que c'était plutôt mon corps qui s'est mis à mobiliser. C'était même pas mon esprit, c'était pas mes pensées, c'était plutôt mes doigts, mes mains. C'était un cri qui sortait de chaque morceau de mon corps. Spécialement toutes ces années-là, j'ai choisi justement de pas dire les paroles, de faire les choix, de travailler comme un artiste parce que je suis une artiste. Mais bon, cet événement, c'était quelque chose que aussi j'ai senti que il faut, parce que j'ai réalisé que je suis quand même comme un pont entre l'Iran et l'Occident. Parce qu'il y avait des chaînes d'information, il y avait des pages sur Instagram, des informations qui n'étaient pas traduites. Et même si c'était traduit, ce n'était pas culturellement expliqué. Et moi, j'ai essayé de faire cela, j'ai essayé d'expliquer, donner un peu de... de faire sentir qu'est-ce qui se passe en Iran aux gens. Et quand même, l'embouteillage dans le page, c'était à peu près... Il y avait des mois où c'était plus que 350 millions de personnes qui s'était engagé sur le petite page Instagram que j'ai toute seule.
Une petite page à 17 millions d'abonnés, ouais. Quand même, on le précise. Mais c'est ouais. Vrai que vous vous êtes engagé très fortement à cette période-là. Vous avez publié presque tous les jours, hein, il me semble, pour documenter, pour donner une voix aussi à cette opposition, à cette envie de liberté, à ce souffle. Et ça faisait peut-être écho aussi à votre histoire personnelle. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours que vous livrez ici dans ce livre. Alors, vous êtes la fille d'un père metteur en scène et acteur et d'une mère actrice et peintre. Vous avez grandi donc en Iran, dans une famille qui était plutôt opposée au régime. Vous le racontez au début du livre, je cite « Dès ma naissance, j'ai su que j'étais une résistante ». Comment est-ce que cette pression politique qui existait déjà, dès les années 80, vous l'avez ressentie dans votre enfance et dans votre adolescence ?
En fait, quand on est né sous les bombardements, c'était le moment de la guerre de l'Iran et l'Irak. Et il y avait beaucoup de tensions dans notre maison parce que, tant qu'enfant, je savais que mon père, il ne pouvait pas travailler parce qu'il n'avait pas le droit de travailler. Il y avait beaucoup de pression. Il ne pouvait même pas venir me visiter, me voir quand j'étais née. Pendant des années, il était cherché. Il avait de la chance d'être vivant aujourd'hui parce qu'il était... Il y avait beaucoup de ses amis qui ont été exécutés dans notre enfance. En fait, je me souviens quand j'avais 4 ans et j'avais une copine de 4 ans qui son père a été exécuté. Elle était la dernière personne qu'elle a vue, son père. Et elle était là et tous les adultes étaient là et elle demandait qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Et l'enfant de 4 ans, qui était ma copine, elle était là. Elle racontait comment elle a vu son père la dernière fois. Et c'était ça, mon enfance. Et je savais qu'il y a une force qui est contre la vie, contre notre vie et contre tout ce qui est bien, l'art, tout ce qui est de la joie, tout ce qui est d'être heureux. Il y a une force qui est contre ça. Et nous, on est là pour le garder vivant parce que toute mon enfance, même si tout était opprimé et terrible et notre maison a été confisquée, on a continué à faire la fête, à voir les amis, à toujours chanter, danser. C'est ça l'esprit de l'Iran. Parce que l'Iran, c'est un pays qui a vécu pas mal de régimes dictatures. C'est pas seulement ces 44 ans. On a vécu des Moghols, des invasions, des gens qui ont dirigé l'Iran comme vous pouvez pas imaginer. Il y avait des opposants qui étaient comme... Il y avait des gens de roi au IIIe siècle qui mangeaient les opposants de roi dans justement à Isfahan, vous savez, les Tchéguiniran. Alors, l'Iran a vécu ça. C'est dans notre ADN, on a gardé l'Iran dans notre cœur pendant des millénaires. C'est pas seulement 44 ans. C'est ce qu'on oublie, c'est qu'on a une histoire. On a une histoire de résistance dans notre ADN. Et c'était là, je suis née avec. Et je suis née dans un régime quand même le pire, peut-être oui. Le pire de chez pire que l'Iran a jamais vécu, je crois.
Oui, et vous... Vous expliquez que vous êtes une résistante, que l'Iran finalement se relève toujours de toutes ces épreuves, mais je vous ai lu expliquer dans une interview au Monde que vous étiez aussi, vous apparteniez à une génération de personnes traumatisées par cette guerre, notamment entre l'Iran et l'Irak. Comment ça se caractérise aujourd'hui, le fait que votre génération soit particulièrement touchée par ce qui s'est passé ?
La guerre. Je crois, d'abord, c'est la guerre et après, toute cette oppression. Et toujours, on dirait que... Moi, je dis toujours que j'ai l'impression que la base de ma vie, c'est de la glace. Et en dessous, c'est de l'eau. Ça veut dire que je suis toujours en train de glisser dans la vie et en attendant que la glace éclate et je tombe dans l'eau glacée. Nous, c'est ça, notre base de vie. C'est, on n'est jamais rassuré. On attend toujours une catastrophe parce qu'on a vécu les bombardements. Moi, j'ai beaucoup travaillé psychologiquement et tout ça pour pouvoir comprendre comment vivre avec ces traumatismes. Et je parle justement dans le livre que, par exemple, dans mon classe de conservatoire, de 26 filles qu'on a étudiées ensemble pendant 10 ans, de ces 26 filles, seulement 5 a des enfants. Ça veut dire que vous pouvez imaginer une génération qui ne croit pas à l'avenir, parce que l'avenir, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Malgré donc, des politiques qui encouragent la natalité,
oui,
c'est ce que
exactement,
vous dites.
Exactement, qu'ils disent que faites les enfants, nanadidadada, ils font tout, mais non, parce que l'avenir, ça n'existe pas. C'est là maintenant, par exemple, quand on faisait la fête aussi en Iran, c'est toujours, on rentre dans un endroit, on vérifie les fenêtres où on peut fuir s'ils viennent. Et moi, j'ai perdu 2 amis en sautant entre les balcons quand le police morale, il venait. 2 amis qui sont morts comme ça, juste pour pas être attrapé. Peut-être, il aurait pas été mort s'il était attrapé par le police. Mais il voulait pas. On dirait qu'on préfère de mourir qu'attrapé par le police morale. Alors c'est ça, c'est qu'on va faire la fête en sachant que peut-être ils vont venir. Là, aujourd'hui, les filles, ils portent pas le voile en sachant qu'ils vont peut-être être morts parce que ils peuvent encore être attrapés, tapés comme Mahsa et mourir. Mais ils continuent à faire cela. C'est nous. On vit le présent.
Oui, et vous l'expliquez, vous avez grandi avec ces contraintes qui sont très importantes. Vous avez grandi d'ailleurs avec le voile obligatoire. Vous posez même pas la question enfant, puisque ça fait partie de la normalité. Et pourtant, il va y avoir un événement traumatisant à votre adolescence qui va survenir. Vous avez été victime d'une attaque à l'acide alors que vous étiez jeune actrice. Et quelqu'un, un homme, a considéré que vous ne le portiez pas assez bien et donc il vous a attaqué à l'acide. Vous n'avez pas été atteinte au visage, mais après cet événement, vous avez décidé de vous raser la tête et de ne plus porter le voile. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie, cette attaque, cette agression ?
Justement, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que j'ai réalisé que je suis victime à l'attaque de l'acide quand je suis venue en France. Parce qu'en Iran, c'est une partie de banalité. En fait, j'ai même pas réalisé que c'est un événement. C'était juste, ouais, il y a quelqu'un qui a jeté l'acide sur moi, tout a été brûlé. C'était,
vous en avez sur votre main, il me semble.
Oui, la main, mon dos. Et heureusement, j'avais un sac à dos. Et quand on est allé justement à la police a dit, Monsieur Farhani, ne portez pas plainte, vous allez perdre votre temps. On a chaque semaine 2-3 cas de l'attaque à l'acide. Et c'est comme ça, c'est l'avant l'été, c'est normal. Normal, carrément. Et on a dit, bon, d'accord, on n'a pas porté plainte. Et bon, c'était une des choses que j'ai vécues, mais ça ne m'a pas cassée pour la vie. Ça veut dire que toutes les choses qui on a vécues des petites, spécialement tant que petite fille, et après dès l'adolescent et tout ça, les agressions sexuelles, tout ce qui a été dans notre vie, ça a été quand même une banalité. Parce qu'on savait qu'on n'est pas défendu, il vaut mieux de ne pas parler, il vaut mieux juste rester vivant, être concentré dès l'âge de 6 ans, de juste 4 ans, je peux dire, de juste esquiver, rester vivant et continuer. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment né dans une espèce de résistance où on n'a même pas la chance d'être cassé. Ça veut dire qu'on n'a même pas la chance d'être déprimé ou d'être traumatisé. Le traumatisme, dès que ça arrive, ça rentre dans la profondeur de l'âme où ça nous tue autre part. Mais dans la vie quotidienne,
on ne peut pas vous le permettre, en fait.
Exactement. Ça veut dire qu'on est dans une bataille de survie où on n'a pas le temps d'être traumatisé. Mais c'est terrible parce que là encore, que j'ai le temps de faire une réflexion sur tout ce que j'ai vécu, c'est quand même ouf de faire sortir toute cette blessure de profondeur de l'âme. Il y a un sacré travail pour le faire parce que c'est assis dans le corps, c'est assis dans l'âme. Et c'est ça, c'est que j'ai réalisé ça ici en France. Pour moi, en fait, j'ai réalisé ça que, j'ai rasé ma tête après ça. J'ai jamais réalisé ça en Iran.
Ah oui, vous vous êtes pas dit, m'attaque pour mon voile,
non, pas du tout, pas du tout. Quand je racontais ça, j'ai raconté justement Nahal Tajadou de la femme de Jean-Claude Carrière. On a écrit un livre ensemble, Elle joue. Et quand je racontais, oui, j'avais 16 ans, un mec dans la rue, elle a jeté l'acide. Et après, je suis allée, elle a dit, attends, quoi? J'ai dit, oui, en fait, oui, c'est comme... Il a dit, mais tu racontes comme ça? Oui. Et après, pendant ce livre, j'ai réalisé que, en fait, c'est après cet événement que j'ai encore re-rasé ma tête, parce que j'ai rasé ma tête à 14 ans pour le premier film. Et j'ai re-rasé ma tête, mais j'ai jamais réalisé que là, qu'ils ont jeté l'acide pour moi, là, je vais raser ma tête et je vais dire, je veux pas être une femme. Non, c'était juste un réflexe complètement inconscient que je vivais, et après, j'ai réalisé que... Ouh.
Parce que vous ne faites pas que vous rasez la tête. Vous prétendez être un homme. Vous, oui. Vous expliquez que vous bandez la poitrine, que vous enlevez votre voile, et que vraiment, vous vous aspirez très jeune, dans un pays, encore une fois, où c'est dangereux, à cette liberté que vous avez un petit peu chevillée au corps depuis le plus jeune âge. C'est une liberté... Vous dites, on n'a pas le temps d'être traumatisé, on n'a pas le temps se retourner sur toutes ces agressions. Vous allez faire plus de 10 films en 10 ans, vous allez devenir une véritable star dans votre pays, vous êtes extrêmement connu, reconnu, et vous allez faire ce film en 2008, Mensonge d'État, avec de Ridley Scott, avec Leonardo DiCaprio, ça va vraiment vous propulser sur la scène internationale, et c'est là que va s'opérer une rupture avec votre pays natal. Vous allez revenir dans votre pays après un tournage, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous doutez que vous allez avoir cette pression politique-là en revenant?
En fait, avant, ce que vous disiez, c'est qu'on a cet esprit aussi de « tu me cherches, allez, essaye de m'attraper si tu veux ». Même si c'est dangereux, c'est ce que je faisais. Ça veut dire que là, vous ne me laissez pas faire ceci et cela. Là, je vais faire autre chose. Je vais moquer de votre visage. Je vais venir dans votre événement religion. Tant que femme, je vais mettre mes mains. Tant que vous êtes religieusement en train de faire un truc très religieux et vous ne savez pas que je suis une fille et vous êtes en train de toucher une fille et je suis là. Ça veut dire que je jouais vraiment, comme on dit, avec le queue de lion tout le temps. Et de provoquer et de toujours savoir que c'est moi qui gagne à la fin, c'est pas vous. Avec votre restriction, c'est moi qui gagne. Parce que même si vous pouvez me tuer, vous jetez de l'acide, vous faites ci ou ça, vous m'arrêtez, à la fin, moi je sais qu'est-ce que moi je suis en train de faire. À vous, comme le film Sangue et Sabour, c'est qu'à la fin, c'est moi qui gagne. Et vous, vous savez même pas. Vous êtes tellement pas intelligent que vous savez même pas à quel point vous êtes ridicule. Alors... Le film Mensonge d'État, c'était ça un peu. C'était miraculeusement, ils sont venus chercher une actrice, pas seulement moi, par hasard, j'étais en dehors d'Iran, j'étais à Los Angeles pour montrer un film qui a été banni. Et j'ai fait 2 mois de casting très long et ils m'ont pris et oui.
Faut quand même préciser que vous êtes la première actrice iranienne depuis la révolution en 1979 à accéder à Hollywood, à avoir cette exposition internationale. Donc pour eux, c'est une première. Ils n'ont pas l'habitude de gérer ça.
En fait, il n'y avait pas une loi. Ça veut dire que quand moi j'ai fait le film et je suis rentrée en Iran parce que j'étais sûre que le film défend la situation de Moyen-Orient. Et ils disent que, par exemple, le stratégie américain ou machin, ils sont coincés dans Moyen-Orient, ils ne peuvent rien faire. La scène où les voitures, ils vont autour de voitures de Leonardo DiCaprio et les drones, ils ne peuvent rien voir et les voitures partent des directions différentes. Ils disent, c'est ça votre situation dans Moyen-Orient. Vous ne pouvez rien faire à la fin. C'était la guerre d'Afghanistan, c'était un... Et moi, j'étais sûre que je peux être fière et rentrer en Iran et dire... Ça, c'est bien pour nous, parce qu'ils disent que le stratégie américain n'a pas marché quand même en Moyen-Orient. Et quand je suis rentrée, justement, ce n'était pas le cas.
Mais ils n'avaient même pas vu le film, vous dites.
Non, le film n'était même pas sorti, parce que moi, j'ai fait le tournage et je suis rentrée, et le film était en montage. Et même, je suis allée à Londres entre le temps, et c'est ça, à Londres, que je devais faire un autre film. Et quand je suis à Londres, ils m'ont dit... Tu veux rentrer en Iran, là, 2 semaines, ou tu restes à Londres? Et moi, j'ai dit, votre recherche n'est pas très bien, c'est plutôt arabe que perse ou iranien, je vais vous amener des livres et tout ça. Je suis rentrée en Iran, justement.
Vous alliez passer un casting à Londres?
J'ai fait le casting. On a dit, on va faire le film Prince of Persia. On avait 2 semaines d'attente. Et moi, j'ai dit, je rentre en Iran. Et je suis rentrée en Iran. J'ai acheté les livres, j'ai acheté des machins, du caviar et tout ça. Et en revenant sur le chemin vers Londres pour faire ce film, ils ont confisqué mon passeport à l'aéroport et ils ne m'ont pas laissé partir. Et c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils n'envoient pas une lettre pour dire que vous êtes banni pour quitter le pays. Ils le prennent à l'aéroport pour vous déstabiliser.
Et vous avez 26 ans à l'époque.
24.
24 ans.
C'était en 2007. Ça, c'était en 2007, oui. Et là, vraiment, ma vie a basculé. Ça veut dire que j'ai réalisé que je ne peux pas me moquer de la service secret iranien. Ça veut dire tout ce que j'ai vécu jusqu'à cet âge-là, je n'ai jamais voulu quitter l'Iran. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, mon Dieu, on dirait que c'était l'autre côté de pièce d'argent, comme de coin. Et j'étais coincée.
Pourtant, vous êtes la plus grande star du pays.
Oui.
À ce moment-là, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Finalement,
Oui, et le problème, c'est qu'il n'y avait pas un loi. Ça veut dire qu'après moi, ils ont passé un loi que chaque artiste qui travaille à l'extérieur d'Iran, il doit d'abord obtenir une autorisation. C'est la loi Goldshifteh. Mais avant ça, il n'y avait pas de loi. On n'avait pas un loi pour ça. Alors, ils étaient un peu perdus. Et moi, j'étais entre la Cour nationale, qui est l'endroit le plus effrayant du système judiciaire, et la service secret. Et 7 mois d'interrogatoire. Et vraiment, c'est une longue histoire. Et finalement, j'ai réussi à sortir du pays avant que le film sorte, Mensonge d'État.
Et vous expliquez que vous sortez grâce à un juge qui, finalement, aime votre travail. Et pourtant, est un juge qui, normalement, coordonne la répression, mais qui aime tellement votre travail qu'il vous donne 24 heures pour vous enfuir. Vous saisissez de ce moment-là.
Oui, il m'a donné ce 24. Ce juge-là, c'est un des juges qui a exécuté les amis de mon père. Ça veut dire que le même juge qui a exécuté, qui a donné les ordres d'exécution de l'ami de mon père, il était mon fan 20 ans après. Ça, c'est l'Iran. Et c'est lui, carrément, qui m'a protégée devant la série secrète. Il est mort aujourd'hui de Covid. Il a dit, tant que le film n'est pas sorti, on ne peut pas le punir. On ne peut pas la punir. Il faut qu'on attend que le film sorte. Après, on peut donner le sentence,
La condamnation.
La condamnation. Alors, moi, je me suis dit, je ne peux pas attendre le film et je ne sais pas, même si j'ai lu le scénario, je ne sais pas comment ils ont coupé le film. En même temps que Ridley, il a coupé certaines scènes, justement, pour me protéger.
Et donc, vous vous enfuyez tout de même à Paris. Vous venez vivre à Paris où vous habitez toujours. Et à 24 ans, vous devez tout refaire. Vous n'avez plus votre famille, vous quittez tout du jour au lendemain et vous décrivez dans ce livre la douleur de l'exil qui est évidemment subie par définition. Vous écrivez « L'exil, c'est une autre naissance, on meurt pour renaître à nouveau ». Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on tuait un petit peu une partie de vous en vous forçant à l'exil comme ça ?
Ah oui, Oui, je crois que pas seulement tuer, mais shift delete. Ça veut dire que c'est pas delete, mais shift delete. Ça veut dire que c'est éradiquer. Ça n'existe plus. Ça veut dire que nous, une partie de notre âme, il n'est plus là. On l'a plus et on va jamais l'avoir. Un jour, si je rentre en Iran, ça va pas revenir. Vraiment comme un bras coupé et ça va jamais repousser. Ça veut dire que on est handicapé au niveau d'âme toute notre vie, mais on fait des compétitions à paralympiques. Ça veut dire qu'on devient les champions des fois des paralympiques, mais toujours. On n'est pas les êtres, on ne peut pas se comparer avec les êtres qui n'ont pas cette blessure. Parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible, vraiment. Inexplicable, on ne peut pas l'expliquer comme la mort. On ne peut pas l'expliquer tant qu'on n'est pas mort, on ne comprend pas la mort.
Qu'est-ce qui est le plus difficile, même si j'entends que c'est difficile à décrire pour les personnes extérieures, mais qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans cet exil si vous deviez essayer de l'expliquer à des personnes qui ne l'ont pas vécu, ce déracinement ?
Je crois que la chose qui me fait la plus peine, c'est la peur de ne pas pouvoir enterrer mes parents. En fait, c'est ça. J'ai fait un film sur Arte que j'ai regardé hier soir, je me suis dit, waouh, la chose qui me fait le plus mal, c'est ça. C'est fou, ça me fait pleurer.
C'est de... Pause, si vous voulez.
Non, ça va. C'est de, justement, pas pouvoir enterrer mes parents. C'est fou. C'est pas la société où on peut pas faire ci ou cela, juste de ne pas mettre dans la terre. C'est ça. Je crois que c'est ça. Le plus, c'est fou, ça me fait rire.
Vos parents, vous les avez revus depuis
exil. Oui.
Vous dites qu'ils sont venus en France vous voir. Actuellement, ils sont en France.
Oui.
Et vous expliquez que c'est pas pareil d'avoir non. ses parents dans son pays et d'avoir ses parents dans une terre étrangère parce qu'ils ne peuvent pas avoir le même comportement de parents. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ça ?
En fait, les parents, on les aime dans leur espace. Ça veut dire que si votre parents sont de province, vous allez à province les voir parce qu'ils sont dans leur environnement. Ils sont dans leur pouvoir chez eux. S'ils sont paysans, s'ils sont... Dans n'importe quelle situation, on aime les voir dans leur situation. Tant que quand on les voit ailleurs, où ils ne parlent pas très bien la langue, ils perdent un peu leur pouvoir. Alors, ils deviennent nos enfants à nous. Bon, à un moment donné, les parents, ils deviennent tous nos enfants à nous. Mais, par exemple, pour mon père, qui est quand même comme un mountain gigantesque, très fort, et les gens vraiment le regardent comme un semi-dieu, ici, il devient tout petit. Et moi, ça... et ça fait 16 ans à peu près que je ne l'ai pas vu dans cet environnement. Et c'est ça aussi qui est... On les voit toujours décalés. Ça veut dire que même si on se voit, on se voit dans un décalage permanent. Ça veut dire que, de toute façon, notre monde est complètement, constamment décalé.
Donc vous êtes... forcé à l'exil, à cet âge très jeune, avec la douleur qu'on peut ressentir aujourd'hui. Et pourtant, vous allez que peu vous exprimer pendant toutes ces années sur la situation dans votre pays. On imagine que vous allez quand même continuer à observer. Et on l'a dit au début de l'interview, c'est vraiment en décembre 2022, quand Mahsa Amini est assassinée, que là, vous devenez vraiment la porte-parole de cette contestation, de cette révolution.
Femme, vie, liberté. C'est la voix des jeunes femmes et des jeunes hommes de l'Iran contre un régime qui tue les enfants et les innocents, qui déstabilise la région, qui menace par la nucléaire, qui fournit les armes à la Russie, qui jette son venin hors de ses frontières, qui repose sur la terreur, la torture et l'exécution.
Qu'est-ce qui se passe en fait en vous pour que vous vous saisissiez de la presse? Là, aujourd'hui, vous écrivez, vous participez à l'écriture d'un livre. Est-ce que vous avez l'espoir que ça change durablement en Iran, que vous puissiez peut-être même retourner un jour dans votre pays?
En fait, à vrai dire, moi, j'ai rien fait pour pouvoir rentrer en Iran. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, rentrer en Iran, ça ne va pas me guérir de toute façon. Mon Iran est perdu pour toujours. Mais en fait... C'est ce que j'ai réalisé, c'est que là, le peuple iranien, ils ont besoin, on dirait que c'est un pays sur une sourdine, qu'on ne peut pas les entendre. Alors, on a besoin d'être on a besoin d'être un écho de leur voix, amplifier leur voix. Ça veut dire que ce n'était pas ma voix à moi. J'ai essayé de juste ce qu'il disait, j'ai essayé juste d'amplifier et faire écouter les autres. Et là, justement, ce changement dont vous parlez, c'est pas... En fait, l'Iran a changé. Comme j'ai une copine qui vient de rentrer d'Iran, il dit, en fait, on a eu la révolution, juste le régime n'est pas changé. Mais les femmes portent pas le voile. De toute façon, c'est terrible, la situation économique, les oppressions, tout ça, c'est terrible, tout ce qui se passe. Mais on a gagné quelque part. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, pas seulement à Téhéran, mais partout en Iran, qui portent plus le voile. Et ça, c'était quand même la ligne rouge de ce régime. C'est l'honneur de ce régime, c'était le voile. Et là, que ces filles-là, ils le portent plus carrément, et le gouvernement, il fait rien. Cette humiliation, c'est pire que tout, en même temps qu'on se demande, est-ce qu'une révolution comme Libye ou comme l'Égypte même, est-ce que ça, c'est ça dont on a besoin en Iran? Ou là, ce qui se passe exactement comme, moi je dis comme l'eau salée. L'eau salée, quand ça monte petit à petit, on ne l'entend pas. Ce n'est pas comme inondation ou une tsunami ou un tremblement de terre ou un volcan, qu'il y a des bruits comme la révolution en France. Il y a beaucoup de bruit, les gens dans la rue. Mais il y a d'autres formes de révolution qui se passent très, très doucement et très silencieusement, qui va vraiment sécher les racines de dictature sans bruit. Et si on compare le système en Iran avec l'Europe, les pays libres, comme ça, avec les gouvernements et les régimes libres, on ne peut pas comprendre. On va dire que bon, l'Iran aussi, rien s'est passé. Non, la révolution est en cours. Est en train de se passer.
Continue aujourd'hui.
Ça continue, c'est juste une révolution silencieuse. C'est qu'on ne l'entend pas, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais en fait, c'est en train de travailler sur les racines de dictature.
Et ce qui est impressionnant, c'est que vous êtes partie de votre pays il y a 16 ans, et pourtant vous êtes très connectée aux Iraniens encore aujourd'hui. Je vous posais la question juste avant l'interview, quel est le pourcentage de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux qui sont d'Iran? Et vous me disiez que les trois quarts, en fait, sont des Iraniens. Donc vous avez encore vraiment cette capacité à prendre le pouls dans votre pays. Et vous avez, j'ai lu dans des interviews que vous faisiez la distinction entre les différentes générations et vous expliquiez que la nouvelle génération, les vingtenaires là, d'aujourd'hui, n'ont vraiment plus peur de rien, n'ont pas du tout froid aux yeux et ils iront jusqu'au bout. Quelle est la différence entre votre génération et cette génération qu'on pourrait appeler la génération Z ici couramment?
Nous, on est les enfants de nos parents à nous, qui étaient très liés à la morale, à l'idéologie, à tout ce qu'ils croyaient, soit en liberté ou en égalité. Ils étaient quand même les parents très, très dans un cadre... même traditionnel, moralement correct et dans une idéologie. En fait, la révolution de 79, c'était une révolution idéologique à peu près. C'était pas... c'était très différent. Les enfants de cette génération-là, c'est les enfants de nous. C'est les enfants qui n'en peuvent plus de rien de... Ils disent « femme, vie, liberté ». Ils ne veulent pas l'égalité, ce n'est pas « isme » ou « cet isme » ou « chèque », gauche, droite. Ce n'est pas les pensées. C'est simple. Si vous dites « femme, vie, liberté », un enfant de 4 ans, il comprend. Mais il y avait beaucoup de philosophie et idéologie et pensée derrière la révolution de 1919, je peux dire. Là, c'est une chose charnelle, viscérale, et c'est pas philosophique, c'est existentiel. C'est femme, vie, liberté, c'est simple. Et ces enfants-là, cette génération-là, c'est notre enfant. En fait, c'est notre génération qui n'a pas donné les cadres. Parce qu'il voulait pas, il en pouvait plus de cadres, de tout ce qui nous a mis cet régime quand même. C'est, là, c'est la conséquence de la révolution de 79. C'est nous qu'on a payé le prix. Alors, on ne voulait pas la même chose pour nos enfants. On n'a pas donné la même chose à nos enfants. Je vois. On dit les enfants un peu déchaînés et libres. Ils ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de mourir, pas peur de... Ils, vraiment, c'est eux, c'est fou. Quand on les regarde, des fois, on dit, mon Dieu, cette génération, c'est fou. Comment ils sont courageux. Comment ils sont sans honte.
It is very important for me that I am identified as a female rapper in such country and in such male-dominated scene, and I try my best to do the job.
آره جغل شعر من بیداره میخورم، یه گیلاس واژه میدم یه بطری کامل و من نفسم آتیشه تو دهنم، جلو منو نمیگیره نه پلیس.
Nous on est rempli de la honte. On dirait que notre, la honte a été injectée dans notre sang de tout, de notre existence. Tant que femme, tant que ci, tant que ça. Eux, non. Ils sont en apparence de, et fierté de leur existence, sans honte. Et c'est incroyable.
Vous le dites vous-même, vous êtes en quelque sorte le pont entre l'Iran et l'Occident. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous que nous, là, les, probablement un public français qui va regarder cette vidéo, qu'on comprenne ce qui se passe en Iran ? Et si on y est sensible, évidemment qu'on y est sensible, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent faire pour soutenir, pour aider les personnes qui se battent pour la liberté en Iran ?
Je crois que la première chose, c'est de ne pas comparer les révolutions générales et les révolutions qui se passent dans les pays... sur une dictature comme l'Iran. C'est différent. Il faut croire. Et il ne faut pas penser que... En fait, il faut penser aux femmes iraniennes, aux hommes iraniens. Il faut penser que il y a quelque part dans ce monde où les gens sont en train de se battre pour la liberté toujours et pour l'égalité.
امرو چی دکه؟
اشار کن
سرکوتن یا سرکوتن؟
سرکوتن یا سرکوتن؟
کی دبیتا نمونه؟
ام
همو من پیکوالا ترس به هسترین
بوشن بوشن بو ازادی
بوشن بوشن بو ازادی
بوشن بوشن بو ازادی.
Je crois peut-être être reconnaissant, c'est ce que je dis là en France, peut-être avoir la reconnaissance de vivre dans un pays quand même qui est incroyable, je peux dire. On a envie de encore toujours demander plus. Ça, c'est l'esprit français, qu'on demande encore plus. On râle parce qu'on veut plus, on veut. Mais en même temps, d'être reconnaissant de « Waouh, quel pays la France !» Vraiment, je ne dis pas ça parce que je viens d'Iran seulement, parce que je voyage dans ce monde. Je vais aux États-Unis, je vais dans d'autres pays du monde, je vais même dans les pays en Europe. La France, quand même, c'est un pays extraordinaire. Et peut-être je dis ce qu'il peut faire, c'est d'être reconnaissant et penser qu'il y a d'autres pays dans le monde où les gens meurent pour pas porter le voile, où ça veut dire les problèmes sont à un autre niveau. On peut pas dire que nos problèmes sont plus petits. Non, tous les problèmes ont leur propre valeur. C'est vraiment chaque problème a sa propre valeur. Mais rester en pensée avec les femmes et les hommes iraniens, et tous les aides qui se battent pour la liberté et pour l'égalité. Parce que là, ce n'est pas seulement le problème de l'Iran, le monde est cassé, on est en train de vivre dans un monde cassé qui a été construit mal, qui a été, on dirait, un immeuble qui a été construit mal, et là, vraiment, cet immeuble est comme ça. Soit il faut mettre une dynamite et l'exploser et recommencer, et c'est comme ça que je crois que la nouvelle génération, ils vont reconstruire le monde pour eux, parce qu'au niveau écologique, au niveau social, au niveau économique, la guerre, tout ce qui se passe dans notre monde, c'est une catastrophe. On est en train de vivre dans un monde catastrophique. Alors, mais ce n'est pas d'être absorbé dans l'obscurité et le noir qu'on peut construire ce monde. Il faut être une bougie, il faut être la lumière pour pouvoir donner la lumière à ce monde obscur et absurde.
Au César 2024, justement, vous avez tenu ce discours engagé, ce discours de tolérance.
Heureusement que l'art nous réunit, où les politiques déchirent, les artistes recousent. Au lieu de construire les murs, nous, les artistes, on crée les ponts. Alors rêvons. Rêvons de la paix et de la fraternité et surtout la sororité. Rêvons de l'égalité et de la liberté pour tous.
J'entends complètement, effectivement, qu'en France, on a beaucoup de chance de vivre dans ce pays, mais il y a aussi la montée d'un discours qui est intolérant, qui ne représente pas tous les Français, mais qui vise à stigmatiser les étrangers, à construire des murs, justement. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, face à ce type de discours dans votre pays d'accueil ?
Moi, j'aime la France. Moi, la France, c'est vraiment, comme je dis, il y a des enfants biologiques, il y a des enfants adoptifs. Les enfants adoptifs, ils sont toujours un peu... Ils aiment peut-être plus leurs parents, je sais pas. C'est un truc dingue, parce que on a une regard un peu extérieur. Et je comprends aussi que le monde a changé. Le monde a changé et les lois doivent changer aussi. C'est que si, pour que ce pays ou n'importe quel pays puisse tenir, il faut que ça évolue avec les changements. Par exemple, il y a une guerre, il y a des changements climatiques, il y a ci ou ça. Et là, on voit que si on demande les choses sans penser que est-ce que le système peut tenir ou pas, je ne sais pas. Moi, j'ai un regard un peu l'extérieur et je dis, par exemple, pendant le Covid, comment ce système a tenu les artistes, l'intermittente des spectacles, qui n'existe presque nulle part au monde qu'en France. Et je dis, wow, alors pour que ce système puisse tenir, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour qu'on ne perde pas toutes les merveilleuses choses sociales qu'on a quand même dans ce pays. C'est dur et moi, à vrai dire, je n'ose pas. Je n'ose pas parler de la France parce que je suis un enfant adoptif et je préfère quand même plus écouter et tenir l'espace que parler.
Le titre de ce livre auquel vous participez, c'est « Nous n'avons pas peur, le courage des femmes iraniennes ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous subissez encore des pressions ? Est-ce que vous avez peur encore en 2024 ? Ou est-ce que vraiment vous êtes complètement affranchi de cette peur-là que vous avez peut-être pu vivre avant ?
Non, j'ai pas peur. À la fin, c'est la mort. Et non. Il y avait, en fait, pendant l'année dernière, il y avait des moments où j'avais un peu peur, mais ça m'a pas arrêté. Ça veut dire que quand je rentrais à la maison, je fermais les rideaux, j'étais un peu sur protection. C'était quand même, c'était pas du tout agréable, la peur, mais ça m'a pas arrêté, même pas deux secondes. C'était quelque chose que je disais, bon, à la fin, c'est quoi ? C'est la mort ? Bon, c'est la mort. C'est la vie, la mort. De toute façon, quand on est né, on est condamné à mourir un jour ou l'autre. Alors, si je préfère de pas mourir de la peur, alors il vaut mieux de mourir en courage et en combat et en résistance que se protéger en peur. C'est ça, c'est de vivre entièrement et c'est comme je retourne toujours sur l'histoire des trois papillons de Rumi, de l'amour, c'est qu'il y a trois papillons autour d'une bougie. Il y a un qui tourne autour de bougie. Et là, peut-être il comprend c'est quoi l'amour, sa chaleur. Il y a un qui va un peu plus proche et il brûle ses ailes et il dit « Ouf, là, je sens un peu l'amour. » Et il y a un troisième qui va au cœur de la flamme et c'est ça l'amour. C'est ça qu'on n'a pas, on ne réfléchit pas, on vit entièrement. Et si je suis comme j'ai essayé d'être un pont, et même là, si je ne parle pas, parce qu'il n'y a pas un cri que je dois amplifier là, c'est pour ça. Là, on attend tout ce qui se passe en Iran. Nous, on le suit. On va pas devant eux. Eux, c'est notre référence, ce qui se passe en Iran. Alors oui, non, on n'a pas peur, personne n'a peur. Et nous, de toute façon, il vaut mieux mourir au cœur de la flamme que juste tourner toute la vie autour de la flamme.
Écoutez, on va terminer sur ces paroles. Merci beaucoup, Golshifteh Farahani, d'avoir été avec nous ici sur le plateau de Blast. Peut-être un dernier mot sur votre prochain film, Rokia, qui va sortir en mai.
Attrapez-le ! Ça va, les gars, tranquille. Lourd, qu'est-ce qui se passe ? Reste.
Attrapez-le, les gars !
Ça va.
Reste.
Viens là, oh !
Tu vas où, là ? Qu'est-ce que tu fais ?
Attends,
Rokia, réalisé par Saïd Belkatibi, c'est un film, je dis rarement sur mes films à moi que c'est un film extraordinaire, mais c'est un film extraordinaire. Comme quand j'ai regardé, moi j'étais choquée, comme wow, c'est un. Ils l'ont mis dans un film de genre, mais pour moi c'est pas un film de genre, c'est un drame. Je peux même pas dire féministe, c'est un drame sur l'histoire d'une femme au banlieue qui. Essaye de vivre et survivre et les jugements injustes. C'est dingue comme film. C'est pas les films, c'est pas comme la plupart des films français qu'on a d'habitude à voir. C'est vraiment, il a cassé toutes les constructions de Boudouvas. J'adore ce film, Rokia.
Écoutez, on ira le voir avec grand plaisir. Je rappelle que vous avez donc participé à ce livre aux éditions du Faubourg. Nous n'avons pas peur, le courage des femmes iraniennes. Merci beaucoup d'avoir
été
avec
nous
sur Plateau Plast. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission jusqu'ici. À mes yeux, elle fait partie des interviews les plus importantes que j'ai pu réaliser. Alors n'hésitez pas à la partager et à envoyer votre soutien aux Iraniens en commentaire. Exceptionnellement, la vidéo a été sous-titrée en anglais, alors vous pouvez aussi la partager à l'international. C'est aussi pour pouvoir mettre en avant des personnes au courage hors du commun qui savent se dresser contre l'ordre établi avec sincérité et humilité que nous avons créé Blast, parce qu'il nous semble important de documenter les résistances, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. J'en profite pour vivement vous conseiller ce livre. Le témoignage bouleversant de Golshifteh Farahani, que vous avez pu entendre, est l'une des 16 destinées de femmes présentées dans cet ouvrage. Certaines ont été torturées, sont toujours en prison ou en exil. Elles racontent leurs souffrances, mais aussi la force et la nécessité de leur combat, donnant du souffle à une révolution qui ne semble pas prête de s'arrêter. C'est un livre passionnant, révoltant, un hommage universel à celles qui luttent pour leur liberté. J'espère que cet entretien vous aura plu. Je vous rappelle que nous avons pu le réaliser grâce à votre soutien financier. Donc n'hésitez pas à le partager ou à nous soutenir si vous le pouvez sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.